Suite du chapitre 64. Avant que moi, le Christ, je ne quitte les cieux pour œuvrer en tant que Jésus de Nazareth, la décision concernant ma gigantesque et puissante œuvre de rédemption fut prise dans la salle du trône de l'Éternel. Beaucoup de fils et de filles de Dieu apportèrent alors une partie de leur potentiel de lumière spirituelle dans la mission de rédemption. Ils prirent ainsi part à l'œuvre de rédemption, l'œuvre de rédemption qui reconduit toutes les âmes. Elle les ramène vers leur intérieur, de sorte qu'après la mort du corps terrestre, l'être issu de Dieu puisse de nouveau entrer en Dieu dans la loi de la vie et de l'amour. Les fils et les filles de Dieu s'incarnèrent dans différentes lignées, en premier lieu dans celle de David, qui a la conduite de l'œuvre de rédemption. Et tous sont précédés par la sagesse divine. Elle est le troisième attribut de Dieu, représenté par le chérubin de la sagesse divine, le troisième ange de la loi. Comme je l'ai déjà révélé, le principe féminin, porteur de la sagesse divine, se trouve en habit terrestre, alors que le principe masculin est, lui, en habit spirituel. Tous deux, le duel spirituel féminin en habit terrestre et le duel spirituel masculin en esprit, portent avec moi, le Christ, la responsabilité principale de l'œuvre de rédemption. Ils précèdent les fils et les filles de Dieu appartenant à la mission de rédemption. Ensemble, ils ont le devoir d'enseigner aux hommes le chemin qui mène à Dieu, de leur apprendre à aimer, à se tenir aux lois de l'Éternel et à obéir en toutes choses à Dieu. C'est ainsi que les hommes retrouvent l'étincelle rédemptrice dans leur âme et la font rayonner de plus en plus. Elle est alors un flambeau qui les éclaire sur leur chemin vers l'être éternel. C'est le Christ de Dieu qui vit dans le Père. C'est ainsi que cela advint et advient. Selon un ordre légitime, les fils et les filles, qui furent et qui sont toujours dans la mission de rédemption, s'incarnèrent dans les lignées de cette terre, le duel de la sagesse divine les précédant tous. C'est au cours de l'ancienne alliance que les premiers contingents de fils et de filles appartenant à la mission de rédemption vinrent des cieux vers la terre jusqu'à l'incarnation. Ils me préparèrent, à moi, le Christ, le chemin vers les hommes. Le principe masculin de la sagesse divine, le chérubin de la sagesse divine, fut le premier qui vint sur la terre en tant que prophète pour annoncer la venue du Rédempteur. Sans qu'ils en fussent conscients en tant qu'hommes en habit terrestre, quelques fils et filles de Dieu furent placés aux côtés du prophète pour mettre en œuvre avec lui, dans l'ancienne alliance, ce que l'Esprit de Dieu avait prévu pour cette époque. Quand leur vie terrestre s'acheva, quelques-uns des filles et des fils de Dieu, appartenant au premier contingent et qui s'étaient à peine chargés, revinrent devant le trône du Père dans l'être éternel. Le principe masculin de la sagesse divine, le chérubin, qui avait servi Dieu sur terre en tant que prophète, les précédait tous. La mission de rédemption reste cependant gravée comme un sceau pour l'ère nouvelle dans les deux principes de la sagesse divine, c'est-à-dire qu'elle restera indélébile jusqu'à l'accomplissement de la mission. Il en est de même chez tous les fils et les filles de Dieu appartenant à la mission. Quelques-uns de ceux qui avaient quitté l'habit terrestre se rassemblèrent sur les plans de purification pour s'y préparer, en compagnie de nouveaux contingents en provenance des cieux, à revêtir une nouvelle fois l'habit terrestre. Sans cesse des contingents de fils et de filles de Dieu se rendirent à l'incarnation. Parmi eux se trouvaient beaucoup de ceux qui n'avaient pas accompli leur mission lors des premiers contingents s'étant rendus à l'incarnation. Des charges résultèrent de leur incarnation successive. Quelques-uns remplirent partiellement leur mission, d'autres, par contre, se chargèrent. Ils pénétrèrent dans les règnes des âmes et demeurèrent là, en tant qu'âmes, dans les domaines correspondant à leur niveau de conscience. De nouveaux contingents de fils et de filles de Dieu continuèrent à se former pour me préparer, à moi, le Christ, les chemins sur la terre. Enfin, le contingent décisif pour l'œuvre de rédemption se rassembla. Moi, le Christ, le Fils de Dieu, le corrégeant des cieux, j'entrai en habit terrestre. Et beaucoup de fils et de filles de Dieu vinrent avec moi pour me servir et m'aider. Beaucoup d'entre eux étaient parmi ceux qui me suivaient. Ils s'étaient incarnés dans des familles juives et romaines. Pourtant, beaucoup de ces fils et de ces filles de Dieu s'étant déjà chargés au cours d'incarnations précédentes dans la vie terrestre, ne saisirent pas ce qui se déroulait. Néanmoins, j'apportais aux hommes une partie de mon héritage divin. J'étais soutenu par le Père et par les messagers de la lumière et par le peu de fils et de filles en habit terrestre qui me reconnurent, moi, leur frère et rédempteur, le rédempteur de l'humanité. Après mon retour au Père en tant que corrégeant des cieux et rédempteur de l'humanité, le prochain contingent spirituel se rendit à l'incarnation. De nouveau, les fils et les filles de Dieu se rassemblèrent dans les plans de purification pour s'incarner avec les fils et les filles de Dieu issus des cieux. Les précédents tous, le principe féminin de la sagesse divine vint avec ce contingent. Après la mort de leur corps, ces âmes se rendirent à nouveau soit dans les règnes des âmes, soit dans des domaines plus lumineux. C'est ainsi que, contingent après contingent, les fils et les filles de Dieu vinrent parmi les hommes pour leur enseigner les lois de la vie, afin qu'ils aiment Dieu, lui obéissent et retrouvent dans le Christ la patrie, Dieu, leur Père et notre Père. À chaque fois, ils apportèrent aussi la pensée du royaume de Dieu sur la terre, de sorte qu'elle y prit forme peu à peu. C'est le royaume de paix de Jésus-Christ. Le principe féminin de la sagesse divine revint sans cesse avec eux. Les précédents et œuvrant avec son duel spirituel le principe positif de la sagesse divine qui était et qui est en habit spirituel pour continuer à préparer les voies aux fils et aux filles de Dieu. Depuis ma venue sur la terre, près de 2000 ans se sont écoulés. La volonté de l'Éternel s'accomplit peu à peu dans et à travers les fils et les filles de Dieu. Ils accomplissent de plus en plus sur la terre ce qui est inscrit dans la mission de rédemption. Avec moi, le Christ, enseignez à tous les hommes de se tenir aux lois de la vie et de l'amour afin de devenir libres pour l'édification du royaume de Dieu. Les fils et les filles de Dieu, appartenant à la mission de rédemption, viendront et s'en retourneront jusqu'à ce que soit accompli ce que moi, le Christ, j'ai promis. Un seul troupeau et un seul berger. Un seul peuple, en moi, le Christ. Un seul royaume sur la terre, le royaume de l'Éternel. La mission du Fils que je suis est de ramener à la maison tout ce qui semblait perdu. Cette mission est dans le cœur de ceux qui me servent dans l'œuvre de rédemption. Voyez, jusqu'à ce que l'œuvre de rédemption soit entièrement accomplie, aussi bien sur la terre que dans les plans de purification, tous ces fils et toutes ces filles de Dieu, ainsi que la sagesse divine qui les précède tous, font partie de la mission de rédemption. En moi, le Christ, chaque âme retrouvera le Père. Beaucoup de peuples ont vu leur jour. Ils se sont révélés à eux sous différents noms et les peuples se sont réjouis dans leur lumière. Et justement maintenant, ils reviennent vers vous, mais Israël ne les accueille pas. Cela signifie, les fils et les filles de Dieu vinrent, précédés par la sagesse divine, aussi bien dans l'ancienne que dans la nouvelle alliance. et ils sont aujourd'hui parmi les hommes pour œuvrer comme pionniers pour l'ère nouvelle. Le changement d'ère du vieux monde pécheur à l'ère nouvelle de la lumière et de l'amour a commencé. Peu à peu, la vie en moi, le Christ de Dieu, s'épanouira. Parce qu'Israël ne m'a pas accueilli dans son cœur, moi, le Fils de Dieu, et n'a pas accueilli non plus les fils et les filles de Dieu qui faisaient et font partie de la mission de rédemption, Israël et la nouvelle Jérusalem voient maintenant le jour dans un autre pays.
Et puis Jésus s'adressa à Marie-Madeleine. Dans la loi, il est écrit que celui qui quitte père et mère mourra. Mais la loi ne parle pas des parents dans cette vie, mais de la lumière intérieure qui est en nous jusqu'à ce jour.
Le Christ explique, rectifie et approfondit la parole. Le sens des mots « celui qui quitte père et mère mourra » est le suivant. Le Dieu Père-Mère est pour chaque être spirituel et pour chaque homme Père primordial et Mère primordiale. Il est la lumière inhérente en chacun. Si l'homme s'en sépare, en péchant sciemment, il devient un mort spirituel. Il errera sans repos dans les ombres de son moi, jusqu'à ce que son âme se réveille et atteigne la renaissance dans l'Esprit de Dieu pour s'unir à nouveau au Dieu Père-Mère.
Celui qui se détache du Christ, du Rédempteur, de la Sainte Loi et de la communauté des élus, laissez-le subir la mort. Oui, laissez-le se perdre dans les ténèbres extérieures, car il l'a voulu ainsi et personne ne peut l'en empêcher.
Le Christ explique, rectifie et approfondit la parole. Ces mots signifient « Celui qui se sépare de moi, du Christ, se sépare de la loi éternelle, de Dieu, et de la communauté de ceux qui font sa volonté. Il restera dans les ténèbres et sera spirituellement mort jusqu'à ce qu'il recherche la lumière du monde que je suis en lui. » Chaque âme et chaque homme ont la liberté d'accomplir les lois de Dieu ou de cheminer dans les ténèbres. Puisque le corps spirituel, appelé âme quand il est chargé, est issu de Dieu, le moment viendra pour chaque âme d'accepter et d'accomplir ce qui la libère, la loi de l'amour et de la vie. Cependant, si selon la loi du libre arbitre, l'âme et l'homme veulent cheminer dans les ténèbres, ils devront également porter ce qu'ils ont causé dans les ténèbres, les effets de ce qu'ils ont semé. La loi de la justice dit « Chacun a la liberté d'accepter le divin ou bien de le refuser, mais chacun doit porter lui-même ce qu'il a créé. » Les mots « se perdre » signifient « Respectez le libre arbitre de votre prochain » et ne l'obligez pas même à accepter le divin qui le rend libre. Les lois divines devraient être enseignées aux hommes, mais c'est à chacun de décider s'il veut les mettre en pratique et quand. Celui qui respecte cela accomplit la volonté de Dieu qui dit « Chacun accepte librement ce qui est divin ». Celui qui contraint son prochain agit contre la justice, l'amour et la liberté de Dieu.
Chapitre 65. La dernière onction par Marie-Madeleine, la préparation de la trahison. Au soir du sabbat, avant la fête de la Pâque, Jésus était à Béthanie et il alla dans la maison de Simon, le lépreux, où on lui prépara un dîner. Marthe faisait le service, tandis que Lazare était parmi ceux qui étaient assis à table avec lui. Et Marie, nommée Madeleine, arriva avec un flacon d'albâtre rempli d'un baume d'huile de nard très précieux et cher. Elle ouvrit le flacon et versa de l'huile sur la tête de Jésus, et oignit ses pieds, qu'elle sécha avec ses cheveux. Alors l'un de ses disciples, Judas l'Iscariote, celui qui devait le trahir, dit « Pourquoi ce gaspillage d'huile? On aurait pu la vendre à bon prix et donner l'argent aux pauvres. » Il ne dit pas ceci parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était rempli de jalousie et de cupidité, et parce qu'il détenait la bourse et gérait l'argent. Et ils grommelèrent contre Madeleine. Mais Jésus dit « Laissez-la en paix. Pourquoi l'inquiétez-vous? Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Elle a fait une bonne œuvre sur moi. Des pauvres, vous en aurez tout le temps auprès de vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas tout le temps. Elle a oint mon corps pour mon enterrement. En vérité, je vous le dis, partout où cet évangile sera prêché dans le monde, on se racontera en sa mémoire ce qu'elle a fait. » Alors Satan entra dans le cœur de Judas l'Iscariote, qui s'en alla trouver les grands prêtres et les anciens, pour convenir secrètement de la façon dont ils pourraient le trahir. Ils se réjouirent et s'accordèrent avec lui sur la somme de 30 deniers d'argent, le prix d'un esclave. Il leur promit de le faire et chercha une occasion de le trahir. Et à ce moment, Jésus parlait à ses disciples. Prêchez au monde entier en disant « Efforcez-vous de recevoir les mystères de la lumière et d'entrer dans le royaume des cieux, car le moment est venu et le jour de la rédemption est arrivé. Ne reportez pas cela d'un jour à l'autre, d'un cycle de la roue de la réincarnation à l'autre et d'éon en éon, en croyant qu'en retournant dans ce monde, vous réussirez à découvrir les mystères et à entrer dans le royaume de la lumière. Car vous ne savez pas quand le nombre des âmes parfaites sera atteint. Car alors, les portes du royaume de lumière se fermeront, et dès lors, personne ne pourra plus ni y entrer, ni en sortir. Efforcez-vous d'y entrer tant que l'appel retentit, avant que le nombre des parfaits ne soit atteint et que la porte ne soit fermée. »
Le Christ explique, rectifie et approfondit la parole. Combien de fois, entendez-vous dans ce monde, on aurait pu le vendre et donner l'argent aux pauvres? Tous ceux qui emploient ces mots devraient s'interroger sur leur sincérité et sur l'aide qu'ils ont eux-mêmes apportée aux pauvres. Il ne suffit pas de faire l'aumône aux pauvres dans le but d'être vu des gens comme le font les pharisiens. Donner vraiment, c'est accomplir la loi de l'amour et de la vie. Un don n'est alors pas une aumône, mais une aide véritable. C'est par elle que l'âme pauvre, dans le corps pauvre, trouvera la loi, prie et travaille, et deviendra riche dans son cœur. L'homme recevra alors tout ce dont il a besoin pour vivre en tant qu'enfant de Dieu. C'est là où l'évangile de l'amour et de la vie est d'abord vécu, puis enseigné, que les pauvres qui l'acceptent et l'accomplissent deviennent riches dans leur cœur, et l'homme pauvre recevra aussi ce dont il a besoin pour vivre en tant qu'enfant de Dieu. C'est l'accomplissement de l'évangile qui permet les œuvres véritablement bonnes. Les mots « Efforcez-vous de recevoir les mystères de la lumière » signifient « Les ombres du moi humain recouvrent la lumière. Elles empêchent l'homme de contempler la lumière de Dieu. C'est pour cette raison que l'homme parle de secrets à propos de la lumière qu'il ne peut pas encore contempler. Celui qui voudrait percer ses secrets doit tout d'abord regarder ses ombres. Il doit réparer ce qu'il a reconnu et qui a causé ses ombres, afin de trouver la lumière de Dieu et de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi ne reportez pas de jour en jour, d'un cycle à l'autre, d'un néon à l'autre, ce que vous avez reconnu d'humain, en croyant pouvoir le mettre en ordre lors d'une prochaine incarnation. Car qui d'entre vous sait quand la roue de la réincarnation s'arrêtera pour les âmes lourdement chargées et quand les portes seront fermées à de telles incarnations? Voyez, vous devriez vous efforcer d'accomplir les lois de Dieu durant cette existence terrestre. Ne remettez pas de jour en jour la mise en pratique de la vie sainte en disant que dans une incarnation ultérieure, vous pourrez mieux accomplir les lois de Dieu et soulever les voiles vous empêchant de contempler la lumière et la vie. Voyez, l'homme parle des mystères de Dieu aussi longtemps qu'il a lui-même encore des secrets pour son prochain. Mais celui qui aspire à la perfection n'a pas de secret pour son prochain, parce que la loi de Dieu qu'il accomplit ne contient aucun secret en elle. Celui qui accomplit les lois de l'amour et de la vie est un livre ouvert, et tout lui est aussi révélé. Aujourd'hui, la grâce de Dieu œuvre plus intensément dans ce monde. Lui, le Tout-Puissant, a une nouvelle fois offert un délai à chaque âme et à chaque homme, leur donnant ainsi la possibilité de réparer ce qui est impur.